en direct de Bagdad, en direct et en première ligne depuis Bagdad et en exclusivité depuis Bagdad. Eh oui, en effet, je suis la seule équipe de journalistes entrée dans Bagdad. Ici, aucun portrait de Saddam Hussein, aucune statue, puisque nous sommes en Floride, à la limite de l'Alabama, Bagdad, Florida, 1500 habitants. Et oui, on a voulu venir là pour voir la guerre. Bagdad, vue de Bagdad. Bagdad, au nord-ouest de la Floride, est un endroit very quiet. Qu'il ne se passe pas grand-chose, c'est vrai, à Bagdad, Florida, même si, hier, on a eu un orage terrible et la ressemblance était assez frappante. Mais l'important de Bagdad, Florida n'est pas là. Si à Bagdad, là-bas, Bagdad en Irak, il y a des choses très importantes, il y a le pétrole, il y a des palais, il y a des choses. Ici, il y a aussi une chose très importante, c'est Dieu. Dieu lui-même, oui. Il n'y a aucun endroit sur cette planète où vous avez autant d'églises que dans le comté de Bagdad. Et oui, c'est dans le livre des records. Hier, je vous ai dit 8 églises pour 1500 habitants. Je me suis trompé, c'est beaucoup plus que ça. Il y a des églises partout. Et c'est pas seulement le dimanche, on a pensé, bon, voilà, c'est le dimanche, ça commence le matin, il y a une messe à 11h, l'après-midi on lit la Bible, le soir on se retrouve aux vêpres, et ben non, ça continue, le lundi, il y a des offices, il y a des réunions, il y a de la prière, il y a de la musique, il y a... Dieu est ici. Vous avez compris que on est dans le sud des États-Unis, on est dans la Bible Belt, dans la ceinture de la Bible, et on est dans cette Amérique profonde où les évangélistes et les télévangélistes aussi ont une importance capitale. Et le rapprochement, évidemment, entre l'islam politique, l'islam religieux, l'islamisme et ce qui se passe ici est frappant. Parce que l'alibi, l'utilisation, l'instrumentalisation de la religion à des fins politiques, qui est la critique que l'on fait de l'islam, de l'islamisme, eh bien ici, on le trouve en miroir, on le trouve de façon symétrique, on trouve la même façon d'instrumentaliser la religion à des fins qui sont actuellement celles de la guerre. Même si officiellement les églises évangélistes, fondamentalistes ne se déclarent pas pour la guerre, en tout cas, les fidèles sont fidèles à leur drapeau par ce truchement. Alors fidèles au drapeau, peut-être plus fidèles au drapeau que fidèles que vraiment derrière le président. We support our president and his decisions. Mais we support our troops est plus généralement dit et répété et écrit que la deuxième partie. We support our president. Ça, c'est un petit peu en deuxième. Il faut forcer un peu les gens pour qu'ils disent oui. Bon, on supporte le président. Évidemment, les troupes sont au front et par loyauté, les gens les soutiennent. Voilà, on continue aujourd'hui notre découverte de ce petit village de 1500 habitants et la région aussi autour, comment on vit l'Amérique profonde au temps de la guerre. C'est la question qu'on se pose et on fait plein de rencontres passionnantes, des toutes petites choses qui se passent mais qui, évidemment, ont leur intérêt. Pendant ce temps-là, dans la base où j'y suis, on va retrouver un thème terrible. Avez-vous eu envie de tuer une fois dans votre vie?
Salut, c'est Daniel Mermet, avec Isabelle Magosque-Crentier, là-bas où j'y suis. Et si on les tuait?
Arriving from New York.
Ça, ce que vous venez d'entendre, est autorisé. En revanche, ce qui suit est interdit.
Venez, soulevez-moi ma jupe. Retirez-moi mon slip. Rentrez-moi un doigt dans le cou. N'ayez pas peur. Ça ne mord pas.
Au commencement, était le meurtre. Aujourd'hui, chaque télé est un peu un charnier. Prenons un dimanche ordinaire. Combien de morts dans chaque télé? Combien de crimes, de meurtres et d'assassinats? Flingues, cordes, couteaux, barbaques et gueules ouvertes? Ça baigne dans le sang. Spectacle ordinaire, entre deux bières, entre le berceau du petit, le napperon de grand-mère. Pourquoi cette fascination? Exorcisme ou jouissance? Conjuration ou inspiration? Tuer est une très vieille coutume. Le plus vieil acte du monde. Caïn, chez nous, tue Abel, son frangin. Dans d'autres mythologies fondatrices, l'homme naît du meurtre. Au fond de l'homme, le meurtre. Racine, passionnelle et pulsionnelle. Avez-vous déjà pensé à tuer quelqu'un? Voilà la question que nous avons posée avec Isabelle à quelques-uns. Tu ne tueras point. Eh oui, il a fallu le dire et le répéter, en faire un commandement. C'est que ça n'allait pas de soi. Il fallait un péché, un tabou, une limite. Ne pas tuer, c'est de la culture. Et on sait ce que c'est, la culture. Pulsion, donc, inconsciente, qui s'exprime le plus souvent à travers « Dieu soit loué », une image, une représentation, mais quelquefois, à la suite d'un déséquilibre émotionnel que la plupart du temps, rien ne laisse présager, eh bien, on passe à l'acte.
Ezekiel 25, 17. The path of the righteous man is beset on all sides by the inequities of the selfish and the tyranny of evil men. Blessed is he who in the name of charity and goodwill shepherds the weak through the valley of darkness, for he is truly his brother's keeper and the finder of lost children. And I will strike down upon thee with great vengeance and furious anger those who attempt to poison and destroy my brothers. And you will know my name is the Lord when I lay my vengeance upon thee.
C'est quand mon père me gronde dessus ou donne des claques.
Et alors, t'as envie de quoi dans ces moments-là?
Bah, de le tuer.
Et tu lui as dit déjà?
Non, jamais, mais ça se voyait.
Et t'as eu l'idée de la façon dont tu tuerais ton père?
Bah oui. Par surprise, quand il dormirait, bah, je prendrais les ciseaux et puis je le tuerais.
Ah oui?
Oui.
La nuit, dans son lit?
Oui, puisque sinon, je vois pas comment je pourrais le faire.
Ouais. Et quels ciseaux?
Avec les ciseaux, puisque pour moi, c'est le truc qui coupe le mieux. Mmh. Même qu'un copain s'est coupé les doigts et la langue avec.
Ah bah oui.
Ouais.
Mais alors, tu ferais quoi avec les ciseaux?
Non, mais je le planterais. Dans le dos.
Et tu l'as dit à ton frère?
Jamais. Je le dis jamais à personne.
La maîtresse m'a mis du scotch sur la bouche. Les autres ont dit bien fait. T'avais qu'à pas parler. Ils sont cons, les autres. J'aimerais bien avoir des ciseaux avec des bouts pointus. J'aimerais bien avoir des ciseaux avec des bouts pointus, j'aimerais bien. Après, on allait dans la grande salle qui pue. Il caille toujours là-dedans. Dans mon verre, j'avais 12 ans. Pour être plus grande, je l'ai mise à l'envers. J'aimerais bien avoir des ciseaux avec des bouts pointus. J'aimerais bien avoir des ciseaux avec des bouts pointus. J'aimerais bien. La grosse bonne femme nous a servi. Encore de la soupe à l'alphabet. Moi, je voulais pas en avaler. La grosse bonne femme, elle m'a forcé. Exprès, j'ai tout dégobillé. J'aimerais bien avoir des ciseaux avec des bouts pointus. J'aimerais bien avoir des ciseaux avec des bouts pointus. J'aimerais bien avoir des ciseaux avec des bouts pointus. J'aimerais bien.
J'ai tiré une balle dans ma vie, pas deux. Une seule balle, et ça a suffi pour tuer quelqu'un.
Un assassin? Le gars qu'on vient d'entendre.
Un assassin?
On tue un homme, on est un assassin. On tue des milliers d'hommes, on est un conquérant. On les tue tous, on est Dieu. Jean Rostand avait vu juste. Tuer, les raisons de tuer, on les a trouvés. On a essayé de domestiquer, on a essayé d'apprivoiser, de ranger, de classer. Il y a la raison d'État qui va faire qu'on tue. On va tuer au nom de l'État. L'État a le monopole de la violence et de la mort. Peine de mort, guerre. On va tuer au nom d'une croyance, un sacrifice rituel. On va tuer au nom de l'intérêt. Je tue ma grand-mère pour avoir l'héritage. On va tuer au nom de l'amour, le crime passionnel, hélas, qui tente à disparaître, qui était pourtant une jolie façon de posséder la victime ou d'ôter celui ou celle qui faisait obstacle au désir. On tue au nom de la justice, je parlais des exécutions capitales, mais on peut tuer aussi au nom d'une cause, noble ou non. Ça, c'est les raisons, comme on dit, les mobiles, comme dit la justice. Le tueur peut tuer parce que ça se fait autour de lui. Il tue, alors parce qu'on tue, ou bien il a commencé à tuer, alors il continue, le sang appelant le sang. On se tue aussi par délectation, pour le plaisir. On tue par impulsion, une violence irréfléchie. On tue par lâcheté sur des êtres vulnérables, des enfants, des malades, des prisonniers. On tue aussi parce qu'on est un déséquilibré, on souffre de schizophrénie ou de paranoïa. Mais vous sentez bien, et on sent tous et on sait tous profondément, que toutes ces explications, qu'elles soient d'ordre psychologique ou celles que la justice a mises au point pour créer une des différences de grandeur, ne répond pas à ce qu'il y a au fond de nous et que nous savons bien, c'est-à-dire cette pulsion possible de tuer. Il se pourrait, si on en croit les psychologues et les psychanalystes, que le plaisir, la jouissance physique et le désir de tuer seraient du même ressort. Ce serait Eros et Thanatos, qui seraient les deux visages de la même figure. Qu'en est-il dans nos vies à nous? Est-ce que nous savons que nous avons eu envie de tuer à un moment ou à un autre? On l'a peut-être conçu, mais on l'a oublié. On l'a conçu et on l'a fait. On est passé à l'acte. Ou bien, on est entre les deux. On l'a conçu, mais on n'est pas allé jusqu'au bout. Voilà la question qu'Isabelle Magos-Grenetier a posée à quelques personnes.
Est-ce que ça vous est déjà arrivé de penser à tuer quelqu'un?
Ça m'est arrivé. Oui, ça m'est arrivé tout à fait. C'était il y a très longtemps, je sais pas, je devais avoir une quinzaine d'années à peu près, et où ma mère m'énervait beaucoup, donc j'ai eu envie de la tuer.
Comme ça?
Comme ça. D'accord. Un soir, tard. Et bon, voilà. Chose qui arrive pas forcément totalement maîtrisable, même pas maîtrisable du tout.
Alors, il y a un moment où vous l'avez en face de vous et vous dites qu'il faut faire quelque chose?
Non, je dis rien du tout. Je le prends par le cou et je lui serre le cou. Il n'y avait pas un bruit. Elle n'a du reste pas fait un bruit, mais enfin bon. Avec le cou serré à deux mains. Par un mec de 15 ans, de 85 kilos, de 90 kilos, effectivement, ça ne fait pas vraiment de musique. Quoi.
Ça dure longtemps?
Non, je pense. Je me rappelle pas. J'ai l'impression aujourd'hui que ça a duré très longtemps, mais je suppose que ça a été extrêmement rapide. Juste le temps que je vois que les couleurs du visage changeaient, d'avoir tout d'un coup une trouille horrible, donc d'arrêter immédiatement. Donc, oui, c'est sur la variation de couleur que ça s'est arrêté. Je veux dire, d'un coup, j'ai dit, tiens, ma mère a la tête violette. Qu'est-ce qui se passe? Et, il se passe tout simplement, effectivement, que je commence à avoir un peu de mal à respirer. Quoi. Et voilà, quoi. On n'a absolument jamais reparlé, on a reparlé un peu le lendemain, on a posé les choses, mais depuis, on n'a plus reparlé. Mais bon, ça s'est effectivement fait comme ça, très rapidement et sans préparation, et tac, et pof. Puis il y a quand même sur l'instant une espèce de vide qui se fait, de volonté que le truc aille jusqu'au bout, heureusement, je veux dire. Ça n'a pas été le cas, fort heureusement, je m'entends très très bien avec ma mère, pareil. Mais bon, c'est un truc, oui, effectivement.
Ils savent ça, vos enfants?
Les enfants, ils savent pas ça, non. Je pense que je leur raconterai si un jour ils ont envie de me tordre le cou. Ou à leur mère.
Vous n'en avez pas parlé à trop de monde?
Je n'en ai pas parlé à trop de monde, non. C'est pas vraiment forcément d'abord un truc dont je me vante, loin de là. J'ai dû en parler, non. Il y a plus de 4 ou 5 personnes. Depuis ce temps-là, ça fait pas tellement plus. Quoi. Ouais. C'est pas un truc qu'on raconte à table comme une bonne plaisanterie de soirée. Tant que ça reste dans la tête, ça reste encore bon. Je veux dire, on peut le partager avec les autres. Je veux dire, à partir du moment où le cou a été brusquement serré, c'est plus du tout la même chose. Quoi.
Et vous avez pris conscience que vous étiez capable de tuer quelqu'un?
Ouais, tout à fait. À partir de ce moment-là.
Est-ce que vous avez déjà pensé à tuer quelqu'un?
Tuer, non, mais c'est le fait de le faire disparaître. Oui, mon frère. Quand j'étais petite, j'étais jalouse. C'était à sa naissance et j'avais proposé à mes parents trois méthodes. Alors la première, c'était le mettre dans une marmite, le faire bouillir. La deuxième méthode, c'était l'attacher à un eucalyptus et le laisser se dessécher au soleil. Et la troisième, la solution la plus gentille, parce que tout de même je l'aimais bien, c'était qu'on le donne à des amis et comme ça on pourrait aller le voir de temps en temps. Voilà.
Et t'as eu l'idée de la façon dont tu tuerais ton père?
Ben oui. Par surprise, quand il dormirait, ben, je prendrais les ciseaux et puis je le tuerais.
Ah oui?
Oui.
Moi, Ouais, mais ça, c'est des mots. C'est des choses qu'on dit comme ça, en l'air. Les paroles, c'est du vent. Le passage à l'acte, c'est quand même assez rare. On a quoi, en gros, dans notre hexagone, autour de 2000 assassinats chaque année. Et alors, pour des raisons diverses, je les évoquais, jalousie, alcoolisme, des histoires comme ça. Mais le mobile passionnel est très, très rare. Il est en régression. 200 crimes passionnels, 250 par an. Cette pulsion meurtrière abonde chez tout venant, chez chacun d'entre nous. Elle se, heureusement, se manifeste pas, n'arrive la plupart du temps pas à la conscience. Elle est muselée au fond. Mais qui peut dire s'il est tout à fait étranger à cette pulsion, s'il a été étranger toute sa vie à cette pulsion, à ce délire, de près ou de loin? Est-ce que vous avez eu un jour envie d'y aller?
Come on! It's me, Sam, remember? Tonight's our night. We still have time for a few kisses before the police get me. You'd love that, wouldn't you? You're crazy about me, don't you remember?
Sam, you're out of your head. I should have known that long ago. Please be reasonable.
Come on out, my darling.
Vous avez déjà eu envie de tuer quelqu'un?
Oui. Waouh. Tuer quelqu'un, c'est pas tellement l'envie qui manque. L'idée, c'est surtout de savoir... Comment y résister à cette envie? Oula, si j'ai déjà eu envie de tuer quelqu'un. Oui, ça m'est arrivé, mais je m'attendais carrément pas du tout à ce type de saloperie de question. Pour parler clair. Ouais, je suis pas obligé de dire qui, si?
Non.
Bon.
Quelqu'un.
Oui, c'était quelqu'un. Et ça l'est resté. Mais, oui, j'ai eu envie de tuer sur des... C'est un priori, je pense que c'était plutôt pour moi par rapport à une certaine forme d'injustice qui m'était... qui m'était appliquée. Le milieu social, c'est la DAS. Ça, c'est... La DAS, on appelle ça c'est un mot... En fait, on appelle ça aussi bêtement un orphelinat. Voilà. Ça peut être compliqué d'avoir à expliquer le pourquoi de l'envie de tuer quelqu'un. La cause, on dirait que ce serait... des choses qui sont faites à un enfant... Et que cet enfant en a marre de le subir. Ça arrive petit à petit, ça charge petit à petit, ça grossit cette espèce de violence.
Quel âge vous aviez ?
7 ans, 8 ans. 8 ans. Je sais que l'idée a été tellement bien imaginée avec les cas de figure inventés et ainsi de suite qui fait que oui, c'était presque comme si ça avait été passé à l'acte. Ce que je sais, c'est que la personne a compris que ça aurait pu lui arriver.
Comment elle a compris?
Par une sorte ou une forme de démonstration.
Laquelle?
La mienne. le mime d'une action qui aurait pu aller plus loin. Dans un orphelinat, il y a un réfectoire. Pour manger, il y a des couverts. Les couteaux sont ramassés, sont durement sanctionnés, s'il en manque. Les cuillères, non. On n'imagine pas qu'on puisse faire quelque chose avec une cuillère. Or, une cuillère en aluminium, ça s'aiguise par terre. Et ça devient tranchant. Et ça a une particularité, c'est que ça se met très très bien dans le dos, coincé par la ceinture. Voilà. Après, il suffit d'avoir le courage, à un moment donné, quand vous prenez la gifle de trop parmi les milliers que vous avez pris, de le sortir et de mimer le geste, mais avec la cuillère dans l'autre sens, et de ne pas toucher la personne.
Vous l'avez fait ?
Oui. Ça s'est passé dans la cour de récréation. Tout le monde avait vu.
Et il y a eu des sanctions après ?
Oui, bien sûr. Je les ai assumées. Mais quand on est sanctionné dans ces institutions-là, on en ressort grand, victorieux. Et après, on vous fait plus chier, quoi. J'avais eu le courage, entre guillemets, d'arrêter une chaîne de salisation permanente. J'avais eu le courage de le faire et j'avais 8 ans.
Les criminels de paix, petits ou grands assassins, les dérisoires artisans du fait divers quotidien, ne tuent que leurs prochains. Les criminels de guerre détruisent leurs lointains, et par tous les moyens, disait Jacques Prévert. Et c'est vrai qu'il a toujours fallu qualifier le meurtrier. On dit un meurtre monstrueux, où l'assassin était un dégénéré, un taré, un possédé. Il faut le qualifier comme si assassin n'allait pas de soi. Il a toujours fallu symboliser le meurtre, le cantonner à la violence symbolique, symboliser la violence. Aristote disait déjà que le spectacle du crime libère les pulsions agressives et ne les édifie pas, contrairement à ce que croient certains face à leur télévision. Le pouvoir, en tout cas, a le monopole du meurtre, tout en fustigeant l'assassin. Monopole du meurtre, on pense tout de suite à la guerre ou à l'exécution capitale, mais ça peut être d'affamer des populations entières, de plein droit, avec la bonne conscience, d'un côté, et de l'autre, faire mine de préserver la vie, voire même d'engager des capitaux et des actions pour préserver la vie. Tuer, ça peut être aussi pour des idées. Mourir pour des idées, ça va toujours avec le fait de tuer pour des idées. Et des idées, il y en a des bonnes et il y en a de mauvaises. Il y a des causes justes, il y a des résistances, et puis il y a des folies.
Alors dans le parcours politique, oui, parce que ça c'est un sujet de réflexion que l'on avait, puisque je m'étais engagée politiquement à la Ligue communiste révolutionnaire. Au départ c'était la Ligue communiste, et puis après 73, c'était la LCR. Et puis surtout antérieurement, c'est un sujet de réflexion et de discussion que j'avais avec mon père. Mon père a été franc-tireur et partisan pendant la guerre, donc résistant. Et il s'est trouvé amené à tuer des gens. Et alors que c'était un homme très pacifique, qui avait beaucoup réfléchi sur la question, qui était communiste, engagé. Et pour lui, tuer quelqu'un lui paraissait une absurdité, même s'il avait fait la guerre. il a été amené quand même à tuer des gens. Et on s'interrogeait, on se disait, comment, qu'est-ce que ça fait? Il avait horreur des détails, mais il en parlait en disant que c'était pour lui une souffrance. Et qu'il y avait des choses qu'il n'oublierait pas, et qu'il avait fait parce que c'était son devoir, mais il était encore très touché. Il était terrifié par tous les morts qui l'accompagnaient. Surtout quand il s'agissait de personnes jeunes. Parce qu'il disait qu'on leur avait volé quelque chose et que c'était une grande injustice. J'ai surpris un jour une conversation où il racontait que la femme d'un résistant avait dénoncé son mari et le groupe où mon père était avait été envoyé donc chez cette femme qui s'est cachée sous le lit. Et je ne sais pas exactement ce qui s'est passé, mais j'ai imaginé qu'ils avaient dû la tuer sous le lit parce qu'ils n'arrivaient pas à la sortir de dessous le lit. Et c'était terrible. C'était terrible. Ça me paraissait invraisemblable qu'il ait pu, lui, participer à ça. Et sur la fin de sa vie, il souffrait beaucoup de ces histoires-là. Donc, moi, j'ai déjà commencé à réfléchir à ce sujet-là, avec lui. Moi, je pensais sincèrement que je serais capable de passer aux actes si la situation se présentait, si ma vie était menacée, si la vie de mon mouvement était menacée, si par exemple il y avait un coup d'état de type Chili, qu'est-ce qu'on fait? On part à l'étranger ou bien on s'organise en clandestin? C'est ça. Et moi je pensais que je pourrais passer dans la clandestinité et me battre les armes à la main.
Bon. Les armes, vous saviez ce que c'était?
Non. Non, alors là, les armes, je me disais que plus tard, peut-être, je pourrais me renseigner, mais non, les seules armes que j'ai touchées d'un peu près, c'est à la foire. Hein.
You talking to me? You talking to me? You talking to me? Well, who the hell else are you talking to? Talking to me? Well, I'm the only one here. Who do you think you're talking to? Oh, yeah? Huh? Okay. Listen, you screwheads. Here's a man who would not take it anymore. A man who stood up against the scum, the dogs, the filth. Here is someone who stood up.
Anne, j'ai tiré une balle dans ma vie, pas deux. Une seule balle, et ça a suffi pour tuer quelqu'un.
Now I see it clearly. My whole life is pointed in one direction. I see that now. There never has been any choice for me.
Durant 90 jours, Jacques a attendu son exécution. Il est le dernier condamné à mort en France pour meurtre. Avez-vous déjà envisagé de tuer? Avez-vous déjà commencé à tuer? Avez-vous déjà tué? Question.
Alors, normalement, lorsqu'on est armé, c'est bien l'intention de se servir de son arme.
Et vous, ça vous est arrivé?
Moi, ça m'est arrivé. Mais c'est sûr que, si on se promène avec un calibre dans les poches, un jour ou l'autre, on sait qu'on va avoir à s'en servir. Et on ne sait pas dans quelles conditions, on ne sait pas ce qui va en déboucher. On ne veut pas le savoir. On ne peut pas le savoir. L'arme, quand on l'a sur soi, c'est pour se sécuriser. Mais on se ment. On sait bien, inévitablement. La question, effectivement, est-ce qu'un jour on a eu l'intention de tuer. On ne peut pas dire qu'on a eu l'intention de tuer, mais c'est une probabilité qui peut arriver. Et la preuve, c'est que moi, ça, elle m'est arrivée. Hein, j'ai tiré une balle dans ma vie, pas deux, une seule balle, et ça a suffi pour tuer quelqu'un. Ça s'est passé en une fraction de seconde. Hein, les gens rentrent chez eux, pensent qu'ils sont cambriolés. Moi, je pense que c'est les flics qui rentrent. C'est bon, merci. On a le temps de rien voir. Moi, tout ce que je me souviens, c'est d'avoir dit quelques mots, lesquels je suis strictement incapable de m'en rappeler, d'avoir vu 36 chandelles, parce que le type m'a filé un coup de barre de fer sur la tête, d'avoir entendu une détonation, d'avoir respiré l'odeur de la poudre, de voir quelqu'un qui s'écroule, et ensuite je me suis enfui, moi. Ce n'est que le lendemain à la radio, effectivement, que je me suis dit, mais si, et on commence à réaliser qu'on a tué quelqu'un quand on l'apprend. Moi, je me rappelle le matin quand j'ai entendu la radio la mort de ce type que j'avais jamais vu, en fait. J'aurais été incapable de le décrire, de savoir qui c'était. Je ne l'ai jamais vu. Je l'ai aperçu à contre-jour, dans les lumières des phares, la nuit. Bon, je veux dire, mais on est à la recherche des deux meurtriers. Déjà, quand vous entendez meurtrier, tu dis, c'est moi, ça. Et c'est là que tout le drame arrive. Hein. Parce que lorsque vous tirez, c'est pas comme... Il y a des choses, des sensations qui sont tout à fait différentes. Vous étranglez quelqu'un. Vous avez le contact direct. Donc là vous la sentez, la chose. Vous la respirez. Vous tuez. Hein? Donc là, vous ne pouvez pas tricher. Vous dites, oui, effectivement, je suis en train de... Hein, même si c'est sous la colère, sous l'alcool, mais dès qu'il y a le contact physique, hein, de corps à corps, vous tuez. Si c'est avec une arme, un couteau, un ciseau, un pieu, enfin tout ce que vous voulez, vous le ressentez aussi, parce qu'il y a le contact. Mais lorsque vous utilisez une arme à feu, il n'y a plus le contact. C'est pas vous qui avez tué, c'est l'arme. Et c'est après, quand les choses se calment, effectivement, que tout revient. Tout revient, et bon, vous prenez conscience de ce que vous avez fait, et vous commencez à vous dire, mais quand même, le type, il est mort, quand même. Et puis vous dites, mais puis vous revivez la scène. Et ce qui est terrible, c'est que plus vous revivez la scène, plus vous vivez une autre scène. Parce qu'en fait, au début, vous vivez la scène qui vous convient.
C'est laquelle?
C'est celle de l'accident. Vous dites, mais non, mais moi ça s'est passé comme ça, j'ai pas vu le film. Attendez, la balle, elle a ricoché, j'en ai tiré qu'une, j'ai pas tiré deux, elle a été dans le canon. Et on cherche tout, on cherche tout. Et le problème, c'est qu'à force de vous passer la scène qui vous convient, vous pouvez plus vous rappeler de la véritable scène. Ce qui fait que 30 ans après, en fait, vous savez pas. Vous savez pas et vous commencez à douter. Vous dites, mais attendez, ça se trouve, mais j'ai vraiment tué ce gars-là, quand même. On ne sait pas, parce que dans l'affolement, dans la précipitation, dans les 30 secondes, il y a une vie qui est partie, vous ne savez pas. Là, à ce moment-là, on raccroche à ce bout d'acier qui a été expédié, on raccroche une vie.
Et est-ce qu'une fois que vous êtes pris, vous vous dites, je vais payer, c'est normal ou...
Non. Quand vous êtes pris, vous dites, bon, je m'évade. Ben bien sûr, c'est toujours la fuite. Tant que vous n'avez pas accepté ce que vous avez fait, non, et vous allez vous évader. Moi, pendant des années, j'en ai réussi, puis j'en ai loupé. Ça a été les évasions. Parce que la nature de l'être humain ne fait pas qu'il va accepter d'être enfermé.
D'être enfermé ou il n'accepte pas non plus d'avoir été coupable.
Mais avant qu'il reconnaisse ce qu'il a fait, des fois il ne le reconnaîtra jamais. Il va maquiller son il va le minimiser, il va le transformer, il va se transformer de coupable en victime. Tant qu'il n'aura pas fait le repli sur lui-même, tant qu'il se sera pas, tant qu'il n'aura pas arrêté de se mentir à lui-même, il ne va pas évoluer.
Oui, un jour où vous avez admis ça.
Oui, un jour où j'ai admis ça, c'est quand j'ai attendu la guillotine pendant 3 mois. Donc là, vous êtes dans une situation qui vous oblige à réfléchir, qui vous oblige à vous accepter. Bon, et à partir de là, vous êtes obligé de donner la véritable valeur aux choses. Moi, depuis la maison de correction, depuis l'âge de 13 ans, la seule valeur qu'il y avait, c'était le fric. Bon, et puis quand vous savez pas si le lendemain matin vous allez être guillotiné, vous vous dites, non, il y a autre chose que le fric. Parce que vous pouvez pas vous suicider dans une cellule qu'on est à la mort, c'est impossible, il n'y a rien. Et il faut, ce qui est grave, c'est qu'il faut malheureusement, bien souvent, des situations extrêmes pour débloquer. Pour aimer la vie, il faut faillir mourir.
Et est-ce qu'on a le sentiment d'avoir franchi quelque chose d'irréparable?
Si vous avez réalisé le meurtre, vous avez réalisé l'irréparable. On n'a jamais vu quelqu'un revenir de la mort, hein. Ça c'est clair. Hein.
Mais vous pouvez maintenant être en paix.
On n'est jamais en paix avec soi, mais lorsque vous avez pris la vie de quelqu'un, vous n'êtes jamais en paix. Quelles que soient les conditions, quelles que soient les circonstances, vous avez quand même prendre une vie, c'est quelque chose d'horrible. Hein. Ce type-là, il avait rien fait. Bon, il rase d'autant plus que je savais qu'il avait fait toute la guerre, etc. Bon, il avait gagné de vivre son train-train. Hein. Bon. Ça, c'est une chose que vous pouvez jamais récupérer.
Sans le Viagra, j'en ai pas besoin. Je l'utilise pas.
Non, la question c'est, est-ce que vous avez déjà pensé à tuer quelqu'un?
Jamais. Jamais.
Jamais. Vous voyez, c'est bien, moi. C'est clair.
C'est clair et net.
Jamais.
Jamais. Même pas une libellule. Oui.
C'est quand mon père me gronde dessus ou me donne des claques.
Et alors, t'as envie de quoi dans ces moments-là?
Bah, de le tuer.
Est-ce que vous avez déjà pensé à tuer quelqu'un?
Non.
J'ai surpris un jour une conversation où il racontait que la femme d'un résistant avait dénoncé son mari et le groupe où mon père était avait été envoyé donc chez cette femme qui s'est cachée sous le lit. Et je ne sais pas exactement ce qui s'est passé, mais j'ai imaginé qu'ils avaient dû la tuer sous le lit parce qu'ils n'arrivaient pas à la sortir de dessous le lit. Et c'était terrible. C'était terrible.
À travers les silences, les hésitations, les images fortes, récurrentes, à travers les récits qui nous sont confiés, on mesure la fragilité étonnante, si on avait oublié de s'étonner, du garde-fou. On mesure la minceur du parapet. Voilà une autre histoire, celle d'un homme traqué. La séduction absolue du mal, disait Kafka, c'est la provocation au combat. Voilà un homme traqué en ceci qu'il est journaliste, il est menacé et il doit être armé. Il a une arme et il vit sous cette menace et avec sur lui, contre son corps, son propre corps, cette arme.
C'est pas les deux, c'est toujours le risque. Une balle de 9 mm. Tenez, vous voulez vous en souvenir?
Oui, d'accord.
9 mm parabellum. Voilà, dans l'enceinte du travail, je sépare les deux choses. C'est pour pas qu'il y ait de problème, je garde le chargeur sur moi et je laisse l'arme. Bon, donc ici, a priori, on ne craint rien. Et voilà, et les enfants, ça aussi, ouais. C'est compliqué. C'est la sécurité vis-à-vis des autres. Donc plus personne ne s'en empare, on sait jamais, un coup de folie. Faut avoir ça sur la conscience non plus. Hein.
Ouais.
Donc faut penser à tout, faut pas que les munitions et l'arme soient au même endroit lorsque vous êtes en sécurité. En revanche, dès que je sors, le chargeur est engagé, une balle dans le canon.
Et vous commencez à regarder partout.
Voilà, et lorsque la situation l'exige, la main est sur la crosse. C'est-à-dire que c'est déjà arrivé qu'en sortant du journal, une voiture arrive au ralenti ou une moto. À ce moment-là, l'arme sortie de l'étui, prête à faire feu.
Mais ça m'a intrigué ce que vous m'avez dit sur le fait que une arme, ça sort que pour tirer.
Oui. Oui, je ne l'exhibe. Enfin, à partir du moment où elle est visible, c'est que vous allez faire feu. Je la sors de l'étui, je la garde. Donc à l'abri d'un vêtement pour pouvoir la remettre ensuite sans créer de problème, sans faire monter de pression. En revanche, à partir du moment où elle est sortie, elle est exhibée, elle est visible de votre adversaire, c'est que vous allez vous en servir. Si vous vous en servez pas, faut pas la montrer. C'est une règle absolue. Ça veut dire que c'est dans les situations quotidiennes, c'est-à-dire s'il y a une bagarre, etc., et que vous voulez intervenir et que vous pensez sortir votre arme en disant ça va calmer tout le monde, c'est une erreur absolue. D'abord, ça risque de calmer personne. Ensuite, si vous n'êtes pas capable de vous en servir, ça veut dire que les gens vont vous venir dessus, vont l'attraper, vous la prendre, elle va se retourner contre vous. C'est ça m'oblige moi à me détourner de ces situations conflictuelles.
Et vous pensez que ça peut s'arrêter ou vous pensez que c'est impossible que ça s'arrête cette situation?
Non, ça peut s'arrêter, ça doit s'arrêter. Et on fera en sorte que ça s'arrête.
Et c'est ce qui vous fait tenir ou...
Ça, c'est une bonne question. Moi, ce qui fait tenir, je crois que c'est l'envie de vivre. Hein. Je crois que c'est surtout ça. Ça, c'est une bonne question. On a du mal à se projeter dans un avenir ordinaire. Mais en se disant quand même que ça sera bien.
Les autres dans la rue, vous les enviez, alors, j'imagine.
Oui, ça m'est arrivé. Oui. C'est passé, quand il fait beau, de passer devant des terrasses de café, de voir les gens qui peuvent librement décider de s'arrêter de boire un demi et de flâner, de se mettre en terrasse. Alors que moi je pouvais pas quoi, ou alors ça devient très compliqué. Moi je peux rien improviser, il faut que tout soit décidé, programmé, planifié. Faut pas vraiment improviser, donc c'est un peu compliqué. Mais ça, il est arrivé que je me mette au vert, que j'aille très loin, donc là c'est faire une vraie vie normale. Ouais. C'est vrai que c'est très agréable. Donc
ça reviendra. Sans
les armes.
Et l'entraînement que vous suivez,
C'est des entraînements à toutes les situations de tir possibles. Alors, on tire dans des cibles en carton, hein, sur des silhouettes. Mais il faut s'imaginer que quand il faudra le faire, ce sera des gens... Et je crois que je le ferai, sans problème. D'ailleurs, ce que vous disent les formateurs que j'ai eu au tout début, il s'est révélé que j'étais un excellent tireur, sans le savoir. C'est qu'on tire bien que quand on a une bonne part de haine, que j'ai. Et c'est en gros la haine qui guide le bras, quoi. Ça fait un peu monstrueux, mais... Et donc au tout début, c'est vrai que je me souviens très bien que je visualisais dans les cibles en carton. Pour moi, c'était l'agresseur, donc il n'y a aucun problème. Bon, et vous y allez avec tout ce que vous avez dans les tripes, et hop, ça rentre, c'est dedans.
Je suis sûr de me battre. C'était Là-bas si j'y suis de Daniel Mermet, reportage Isabelle Magos-Grenetier. À la technique ce soir, il y avait Patrick Henry et Étienne Mishka, rétabli. Réalisation Antoine Chao, assisté de Joël Levert et Coy Nguyen, chef du répondeur Christophe Imbert. Si vous souhaitez réagir à cette émission, 01 56 40 37 37.